Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble comme chaque soir jusqu'à 20h avec le journal. Et juste après, on ouvre le Club des idées, on vous décrypte le monde qui change. Ce soir, on s'intéressera à la défiance qui grandit vis-à-vis de l'autorité de l'État. La France manque-t-elle d'un chef? Des policiers, des pompiers, des enseignants pris pour cible, agressés, insultés? Comment notre pays en est-il arrivé là? Pourquoi une telle rupture avec ceux qui incarnent une certaine autorité de la République? On en débattra largement avec nos invités. Et juste avant, ce sera l'heure de la carte blanche du Club des idées avec ce soir la scientifique spécialiste des algorithmes aux religions. Mais d'abord le journal avec vous Isabelle Millet. 19h sur Europe 1.
On ne peut pas imaginer que, par exemple, on ferme toutes les manifestations culturelles et qu'on vive complètement cloîtré. Ça n'existe pas.
Trois nuances de rouge pour évaluer la situation épidémique. Une nouvelle carte de France présentée ce soir et de nouvelles restrictions en vue.
La mairie de Paris met en garde. Elle demande aux autorités de ne pas mettre en place de mesures trop sévères.
Ce sera finalement sept jours de congé paternité obligatoire. Emmanuel Macron a tranché et tous les pères pourront avoir 28 jours en tout.
À l'étranger, Erdogan cède. La Grèce et la Turquie s'engagent timidement sur la voie du dialogue.
Les deux pays annoncent la reprise prochaine de pourparlers. On en parlera avec Didier François.
Et puis on vous racontera aussi la belle aventure d'une start-up française qui vient de réussir la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up française.
225 millions d'euros.
La tendance météo avec Anissa, du vent et de la fraîcheur au programme.
Un gros coup de vent même, hein, demain Julien, sur le nord-ouest. Soyez prudents en Normandie, en Bretagne. C'est le premier épisode de vent fort de la saison. Les températures baissent aussi demain et le ciel est gris. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Attention, nouveau tour de vis en vue. Dans quelques minutes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, présentera une nouvelle carte de France avec peut-être pour la première fois, du super rouge et même de l'écarlate.
Oui, peut-être. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que de nouvelles restrictions sont à attendre. Sans doute, pour les horaires d'ouverture des bars, il pourrait être contraint de baisser les rideaux un peu plus tôt, notamment dans la capitale, même si rien pour l'instant n'est encore acté.
On pense aussi à des restrictions sur les rassemblements. Les manifestations culturelles, peut-être aussi une jauge revue à la baisse dans les lieux de culte.
En tout cas, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé, Anne Souiris, espère que les autorités n'auront pas la main trop lourde.
Il faut arriver à avoir une politique durable face à ce virus. Il faut qu'on puisse assumer une politique sanitaire sérieuse, certes, et qui permette des gestes barrières sérieusement effectués, mais en revanche, que ça puisse durer des mois, que ça puisse, je vais dire un gros mot, enfin, que ça puisse durer un an. On ne peut pas imaginer que, par exemple, on ferme toutes les manifestations culturelles, toute possibilité de voir quelque chose comme du cinéma en plein air, comme même Nuit Blanche, toute l'année, et qu'on vive complètement cloîtré. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passera si on fait quelque chose comme ça? Eh bien, ça favorisera tout ce qui est clandestinité, tout ce qui est fête cachée, privée à des centaines de personnes sans masque. Et ça n'est pas une solution. Si on veut lutter contre l'épidémie, il faut savoir faire en sorte que ce soit durable et réaliste.
L'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé, Anne Souiris, jointe ce soir pour Europe 1 par Olivier Samain. On sera donc fixé dans quelques minutes, théoriquement. On suit ça, bien sûr, de très près. Vous serez informés dès qu'on a des précisions à l'issue de cette conférence de presse du ministre de la Santé.
On rappelle que ce sont les préfets qui pourront utiliser cet arsenal en fonction de la situation sanitaire dans leur secteur.
Et puis chez nos voisins belges, en revanche, on relâche à partir du 1er octobre le port du masque ne sera plus obligatoire à Bruxelles, mais quand même fortement recommandé.
Une grande nouvelle pour tous les papas ou futurs papas. Emmanuel Macron a précisé cet après-midi les contours du futur congé paternité.
Qui passera un mois à partir de juillet 2021. Alors il fallait encore fixer le nombre de jours obligatoires à prendre. Et bien finalement, ce sera 7, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, 7 jours obligatoires pour le conjoint, c'est une révolution. 28 jours possibles en tout pour créer du lien avec son enfant. Emmanuel Macron répond ainsi à une demande de longue date, de nombreux rapports parlementaires, des revendications d'associations de parents, de féministes, de syndicats et pour le dire franchement, de très nombreux pères tout simplement. En déplacement dans une PMI aujourd'hui à Longjumeau, dans l'Essonne, le président a mis en avant l'enjeu de cette mesure, à savoir aider au développement de l'enfant, mais pas seulement. Écoutez.
C'est une avancée en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Et on ne naît pas parent, ça s'apprend. Et ce congé paternité, c'est aussi quelque chose qui reconnaît le rôle des parents et qui va permettre au papa d'être aux côtés des mamans. Et durant ce premier mois de la vie des enfants, eh bien d'être là pour l'éveil affectif, cognitif des enfants et leur donner un maximum de chance.
Alors, le coût de cette mesure, 500 millions d'euros en année pleine. On notera qu'Emmanuel Macron porte lui-même cette réforme qui doit tout de même passer au Parlement vers une adoption au 1er juillet 2021. Le président en première ligne sur un dossier en fait très consensuel, très concernant, une manière pour l'Élysée de mettre au crédit du président une mesure qui va changer la vie des Français et qu'il pourra éventuellement revendiquer. À 18 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron travaille à son bilan.
Évidemment, Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Merci Jean-Rémy. J'ai découvert le meilleur restaurant du monde, écrivait en 1968 le patron du Go Emilio à propos du restaurant des frères Troisgros à Roanne dans la Loire.
Oui, Pierre Troisgros avait 92 ans. Le chef triplement étoilé s'est donc éteint ce mercredi. Un artiste de la cuisine, amoureux du travail bien fait. Il était évidemment connu dans le monde entier.
Et il était, paraît-il, le meilleur connaisseur de l'escalope de saumon à l'oseille.
Bien, miam miam. 19h05, la suite de votre journal. On part à Bruxelles. Bruxelles qui vient de dévoiler sa réforme de la politique migratoire européenne. C'est un équilibre délicat entre responsabilité et solidarité.
Oubliez les quotas de répartition obligatoires qui, de toute façon, n'étaient pas respectés par certains pays. On pense notamment à la Hongrie. La Commission dit en gros, si vous ne voulez pas accueillir de migrants, et bien charge à vous de renvoyer ceux qui n'ont pas le droit de rester en Europe. En tout cas, ce pacte maintenant est sur la table et c'est aux États de s'en emparer.
Oui, toujours à propos de migrants, c'était samedi dernier au large de la Libye, un bateau d'une ONG allemande portait secours à plus de 130 personnes.
Et depuis, comme souvent, malheureusement, personne pour les accueillir. Ce soir, la France demande à l'Italie d'accueillir ce navire qui, pour l'instant, fait route vers Marseille. Pour quelle raison, Nathalie Chevance ?
Eh bien parce qu'initialement, ce navire devait effectuer une escale technique ici, notamment pour changer d'équipage avant de repartir en mer pour une nouvelle intervention. Sauf qu'il y a toujours à bord 125 naufragés. L'Italie a accepté d'en accueillir 8, dont 5 enfants, mais pas plus. Alors la règle, c'est que le bateau doit accoster dans le port le plus sûr et le plus proche. Et à ce stade, l'ONG CI, dont Simone Pompei est le porte-parole, estime que c'est Marseille la solution.
L'Italie n'a pas accepté sa responsabilité de coordonner cette situation. Donc la porte de Marseille, c'est la seule solution parce que personne ne veut accueillir notre bateau. Et donc c'est pourquoi le capitaine a décidé de voyager vers la destination initiale.
Et si pour le moment la France renvoie l'Italie devant ses responsabilités, la ville de Marseille, elle, se dit prête à accueillir sans condition le navire. Question de principe, comme le disait déjà il y a quelques jours le premier adjoint Benoît Payan.
Quand des gens se noient, on ne demande pas à ces gens-là de nous présenter des papiers. On tend la main, on est la capitale de la Méditerranée. Notre responsabilité, c'est de les accueillir. Ce n'est pas des sous-hommes, ces gens.
Alors si le capitaine du Alan Kurdi ne change pas de cap, il pourrait arriver samedi ou dimanche en fonction de la météo. Et l'ONG CI explique vouloir ensuite rapatrier les naufragés jusqu'en Allemagne.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1, donc à Marseille.
Les tensions maintenant entre la Turquie et la Grèce, engluées dans leurs différents maritimes, Ankara et Athènes acceptent enfin de renouer le dialogue.
Et oui, enfin. Alors ça n'est pas encore la grande réconciliation, mais c'est déjà un début et c'est l'œil de Didier François ce soir. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
La fermeté a donc payé, Erdogan a cédé.
Absolument, une capitulation en deux temps, puisque le président turc a d'abord retiré des eaux territoriales grecques son navire de prospection pétrolière avec l'armada qui l'escortait, puis il a finalement accepté d'ouvrir des négociations avec Athènes, ce qu'exigeait l'Union européenne depuis le début de la crise. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est le timing de cette volte-face qui intervient à la veille d'un sommet européen au cours duquel tous les pays de la façade méditerranéenne, alors Chypre, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et bien entendu la France, auraient réclamé des sanctions économiques lourdes contre la Turquie si elle n'était pas revenue au respect des règles du droit international. Et ils auraient obtenu gain de cause. C'est ce qu'a parfaitement compris Recep Erdogan. Et c'est ce qui explique son recul, parce qu'il avait tout misé sur la division des Européens pour tenter d'imposer ses ambitions expansionnistes. Et il a perdu ce pari face à une réponse coordonnée, organisée par la France, qui s'est engagée aux côtés de la Grèce, sur le plan militaire, avec ses manœuvres, puis en fournissant des rafales, et sur le terrain diplomatique, avec la création d'un front euro-méditerranéen.
Est-ce qu'on peut pour autant parler d'un succès d'Emmanuel Macron ?
Eh bien oui, c'est même une véritable victoire personnelle, hein, parce que le président de la République a imposé cette ligne de grande fermeté contre l'avis d'une bonne partie de sa haute administration, des diplomates, mais pas seulement, totalement tétanisé à l'idée d'engager un bras de fer avec la Turquie, estimant que c'était trop risqué et que donc il valait mieux céder au chantage. Certains ont même accusé Emmanuel Macron de jouer avec le feu, ce qui était une façon de théoriser l'impuissance face à des comportements de voyous. Mais le président a conservé son cap, il a gardé ses nerfs et il a fait la démonstration qu'un véritable multilatéralisme de combat, c'était une chose possible et que ça pouvait tenir en échec des politiques d'intimidation.
Merci monsieur Didier François, l'œil de Didier. François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
En Biélorussie, la police a fait usage de canons à eau aujourd'hui contre des manifestants à Minsk après l'annonce de l'investiture dans le plus grand secret à huis clos du président Alexandre Loukachenko.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h11, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. C'est un nom prédestiné pour une start-up. Miracle, comme en anglais, l'entreprise française vient tout simplement de réaliser la plus grosse levée de fonds pour une start-up française, 250 millions d'euros.
300 salariés et la promesse d'en embaucher 300 autres. Son métier, Clément Lesaffre, c'est de créer des places de marché sur Internet. Alors ça veut dire quoi? Expliquez-nous.
Eh bien, quand vous achetez un livre sur le site de la Fnac, par exemple, vous pouvez l'acheter neuf auprès de l'enseigne ou bien d'occasion auprès d'autres vendeurs répertoriés, souvent des particuliers. C'est là que Miracle intervient. Elle développe et fournit cette plateforme d'achat en ligne intégrée au site de la marque. C'est ce qu'on appelle une marketplace. En plus de Fnac Darty, cette pépite française revendique 300 clients dans le monde. En France, elle travaille avec Carrefour, Conforama, Gosport, les Galeries Lafayette. Et son modèle économique est simple. Sur chaque transaction qui passe par une de ces plateformes, Miracle touche une commission. Aujourd'hui, les marketplaces représentent 60% du commerce en ligne. Elles ont en plus été dopées par le confinement. La start-up, fondée en 2012, se porte donc très bien. La preuve, elle prévoit d'embaucher 1000 personnes dans le monde dans les 3 prochaines années, le triple de ses effectifs actuels. Miracle devient donc la 10e licorne française. Ses entreprises valorisées plus $1 milliard. L'objectif de 25 licornes en 2025, fixé par Emmanuel Macron, se rapproche doucement mais sûrement.
Clément Lesaffre du service économie d'Europe 1. Les salariés de Suez et de Veolia main dans la main pour dénoncer le projet de fusion des deux groupes. Ils demandent à l'État de sursoir à tout rapprochement et dénoncent une opération financière mal préparée.
Oui, on était justement tout à l'heure avec la directrice générale adjointe de Veolia au micro d'Europe 1 dans Europe Soir qui a promis en réponse à cette fronde une nouvelle fois qu'il n'y aurait pas d'impact sur l'emploi en cas de rapprochement. De rapprochement, il en est également question dans le secteur bancaire. La Société Générale envisage effectivement de fusionner son réseau avec celui du Crédit du Nord.
Oui, l'idée étant de créer une nouvelle banque de détail qui compterait 10 millions de clients. Le groupe ne donne pour l'instant aucune précision sur les conséquences de ce rapprochement pour les salariés.
19h13, on en vient maintenant à Bernard Laporte qui est toujours en garde à vue, ce soir en compagnie de 4 autres figures du rugby français.
Et notamment Moed Altrad, le président du club de Montpellier et principal sponsor des Bleus.
Le président de la Fédération française est entendu par le parquet national financier pour des suspicions de trafic d'influence.
Et pour maître Jean-Pierre Versini-Campenchi, qui est l'avocat de Bernard Laporte. Il s'interroge sur le timing de cette convocation à 9 jours seulement de l'élection à la présidence de la Fédération.
Je suis scandalisé par le calendrier. J'ai fait tous les efforts pour essayer d'expliquer au procureur en charge que la date n'était pas admissible, que dans un dossier qui est né il y a 3 ans, on attend la date du 22 septembre 2020 pour interroger les intéressés. Vous avez, si vous voulez, une suspicion systématique. Lorsque vous êtes une figure notoire comme Bernard Laporte, vous êtes suspect. Depuis le départ, nous savons que ce dossier, probablement en raison de la personnalité de Bernard Laporte, a été monté en chantilly. Je suis absolument confiant sur le résultat final. La montagne va accoucher d'une souris.
Voilà, maître Versini-Campenchi, joint pour Europe 1 par Simon Rubin.
C'était il y a 50 ans aujourd'hui. Les Français apprenaient avec beaucoup de tristesse la mort d'un grand monsieur, André Rimbourg, alias Bourville.
Ah oui, un comédien qui a profondément marqué la culture française populaire avec des films cultes comme Le Corneau ou La Grande Vadrouille.
Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, ben, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, et plus vrai.
Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos?
Allons, ne perdons pas de temps, bavard. Allez, en avant, allons.
Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo.
Vous n'êtes pas marié, vous?
Non.
Moi non plus. Mais ça va pas tarder, hein, parce que Juliette...
Et oui, Juliette, des scènes cultes qu'on connaît par cœur. On se souvient aussi du Cercle Rouge, bien sûr. Bourville, qui était également chanteur, mais on a choisi de vous épargner la salade de fruits ce soir, sinon vous l'auriez eu en tête au moins jusqu'à demain.
En tout cas, c'est un des éléments qui a été rassembleur pendant le Covid, c'est qu'on a tous revu ces grands films avec Bourville, avec De Funès et avec tous les autres. Merci Isabelle pour le journal. À demain. La météo avec Anissa et les nouvelles se suivent et se ressemblent et elles vont dans le même sens. Elles sont plutôt mauvaises parce que vous nous dites ce soir que le mauvais temps s'installe sur la France.
Oui, avec un ciel gris sur l'ensemble du pays demain, avec de la Gironde jusqu'à l'Auvergne, un ciel couvert avec des averses qui se multiplient dans l'après-midi. Sur le Grand Est, vous aurez droit à quelques éclaircies demain matin, puis beaucoup plus d'averses dans l'après-midi accompagnées de vent. Sur le Nord, la région parisienne et le centre Val de Loire, après les éclaircies matinales, les averses orageuses se déclenchent et le vent se renforce. Et puis sur le quart nord-ouest, c'est là qu'il fera vraiment le moins beau. En Bretagne et Normandie, le temps est nuageux avec des averses puis des orages. Surtout, surtout beaucoup de vent. Plus de 100 km/h sur les côtes normandes demain après-midi. Les températures, elles sont en baisse. 13 à 27 degrés seulement.
Bien, ça promet. Merci, merci Anissa.
Bonne soirée.
Bonne soirée. 19h16, on ouvre comme chaque soir à présent le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur, vous en avez l'habitude, sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la scientifique entrepreneuse, spécialiste des algorithmes, Aurélie Jean. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Julien.
Alors Aurélie, ce soir, vous donnez un coup de griffe au président Macron qui, d'après vous, se trompe de cible lors de ses grands dîners prestigieux autour d'un thème qui pourtant lui est cher, les start-up et la French Tech.
Et oui, absolument Julien. Donc comme vous l'avez dit la semaine dernière, le président Macron a réuni une centaine de dirigeants d'entreprises de nouvelles technologies dans le cadre d'un dîner French Tech. Mais seulement voilà, erreur de casting. Dans ce dîner, et une fois de plus, il y avait trop peu, voire pas de dirigeants techniques. Alors je rappelle pour les gens, le dirigeant technique, c'est oui, le bras droit technique du PDG d'une entreprise.
Et qui était à ce dîner alors?
Bah justement, il y avait principalement les PDG de ces entreprises technologiques. Alors, qu'on s'entende, hein, je veux dire, les PDG sont importants, sont des acteurs importants et fondamentaux pour la création et le développement, la croissance d'une entreprise. Mais j'ai une question à notre président. Pourquoi ne pas adresser directement l'invitation aux dirigeants techniques de ces mêmes entreprises tech?
Mais pourquoi c'est si important à vos yeux, Aurélie Jean?
Ben écoutez, c'est important parce qu'en mettant nos dirigeants techniques à l'ombre des événements de la French Tech, oui, on prend le risque de laisser penser au reste du monde que nos entreprises ne sont pas technologiques. Pire, qu'elles achètent leur technologie à l'extérieur.
Mais sur le plan national, qu'est-ce que ça apporterait?
Bah, énormément de choses, Julien. Tout d'abord, ça permet de faire connaître ce métier encore méconnu, ce métier de dirigeant technique, pour justement inspirer et former de nouveaux talents. Mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, ça permettra à nos dirigeants politiques de développer la vision technologique de la France en parlant davantage aux dirigeants techniques.
Mais alors, comment faire pour les inviter tous au dîner French Tech de 2021 du président?
Bah, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Ah.
Il existe une organisation qui s'appelle TechRox et qui rassemble quasiment tous les noms des dirigeants techniques français. Et vous savez quoi? Je vais être sympa pour le dîner French Tech de 2021. Je vais même faire le plan de table.
Mais vous imaginez s'il invite les dirigeants techniques et pas les PDG, ça risque de grincer des dents dans les entreprises.
Vous pensez? Mais en même temps, c'est un dîner de la French Tech.
Oui, donc il faut être...
Je pense qu'on peut avoir aussi une répartition uniforme des PDG et des directeurs techniques au moins.
Bon, voilà. Le message est entendu. Vous avez entendu, Monsieur le Président de la République,
voilà.
Aurélie Jean s'occupe du plan de table pour
exactement
l'année prochaine. Merci Aurélie.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h19, on poursuit dans quelques secondes avec le débat du Club des idées consacré ce soir à l'autorité de l'État. Tout fout le camp, chantait Edith Piaf. Eh bien, on verra ce qu'en disent nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et à 19h22, on ouvre comme chaque soir le débat du Club des idées avec cette question. Les Français ont-ils un problème avec l'autorité? C'est l'un des grands sujets de cette rentrée. Enseignants, pompiers, policiers, chauffeurs de bus, élus locaux, agents de la RATP, de plus en plus des représentants de l'État, quels qu'ils soient, sont pris pour cible. Agressions verbales, parfois physiques. Des profs pris à partie par des parents d'élèves, des policiers et des pompiers agressés, caillassés. Un chauffeur de bus assassiné à Bayonne cet été.
Des scènes de guérilla dans une ville pourtant réputée calme. Quatrième soirée de tension à Dijon.
Chauffeur de bus en état de mort cérébrale après avoir été roué de coups par des passagers.
Personnellement, j'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère.
Une gendarme de 26 ans tuée après avoir été renversée par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier.
Le maire d'une petite commune de Seine-et-Marne, violemment pris à partie et frappé hier soir alors qu'il rentrait chez lui.
C'est un été orange mécanique, avec une violence gratuite qui nous a toutes et tous profondément marqués.
Voilà quelques exemples, ce sont des faits divers, terribles, mais c'est vrai qu'il y a derrière un climat de défiance et de tension inédit dans notre pays. Alors que se passe-t-il pour que la France en soit arrivée là? On en parle ce soir avec Olivier Galland, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Laurent Geoffrin, ancien directeur de Libération, fondateur de l'association Engageons-nous et auteur de Où est passée l'autorité, publiée aux éditions du Nil avec Philippe Tesson. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on en parle également avec Barbara Lefebvre, essayiste et enseignante, auteure de Génération, j'ai le droit, la faillite de notre éducation, c'est aux éditions Albin Michel. Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, Laurent Geoffrin, tiens, on va commencer par vous. D'abord, partagez-vous, l'un et l'autre, ce constat qu'il y a une crise sévère de l'autorité de l'État aujourd'hui dans notre pays.
Oui et non. Je vais faire une petite déclaration liminaire, parce qu'on va essayer d'expliquer un phénomène. Alors, je connais bien le risque, c'est que les auditeurs, écoutant les explications, comprennent que ce sont des excuses. Alors, ce ne sont pas des excuses. Mmh. Moi, je considère que les gens qui attaquent les pompiers, les gens qui attaquent les professeurs, les gens qui attaquent les policiers de manière délibérée, doivent être arrêtés.
Laurent Geoffrin, c'est le principe du Club des idées oui. d'Europe Soir, on apporte de la nuance. Donc allez-y, oui. sentez-vous libre.
Non, je dis ça parce que j'ai fait souvent des débats sur ces questions. Et dès que vous commencez à dire, vous savez, il y a des déterminations sociales, etc., sociologiques, on vous rétorque immédiatement que vous êtes un laxiste, etc. Donc, je ne suis pas un laxiste et je considère que tous ces gens qui attaquent tel ou tel agent de la force publique ou des services publics doivent être traduits en justice et soumis à des peines de prison quand oui. il s'agit d'actes violents.
Alors, pour répondre à ma question,
alors après,
problème d'autorité de l'État en ce moment ou pas ?
Oui, alors d'où ça vient ? En général, en France, depuis, à mon avis, une trentaine d'années, un peu plus, la société s'est libéralisée. C'est-à-dire que les gens sont plus libres. Ils sont plus individualistes aussi, c'est peut-être l'aspect négatif de la chose. Et donc, l'autorité n'est plus donnée par elle-même.
Car on vit d'abord par ses propres règles et pour ses propres règles et non pas par le collectif. Pour le collectif,
oui,
c'est ça ?
Oui, il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect aussi, il y a le fait qu'on conteste, on est plus prêt à obéir à des décisions sans en comprendre le sens,
oui.
sans en voir le résultat. Et donc, vous avez des gens qui contestent l'autorité en général parce que ils considèrent qu'on leur donne des ordres absurdes ou incompréhensibles.
Mais Jean-Pierre Chevènement, qui était à ce micro il y a quelques jours, aime à rappeler qu'il n'y a pas d'État sans autorité. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr, oui.
Bien. Olivier Galland, même question. Et puis peut-être d'abord un mot du constat, parce que moi j'ai les chiffres sous les yeux, là, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on les rappelle, hein, qui sont assez éloquents tout de même. Les violences envers les enseignants ont progressé de 7% en 2018, et dans un cas sur deux, ce sont les parents qui sont les agresseurs. Idem chez les pompiers, 21% de progression sur la même période, 24% d'atteintes physiques commises contre les agents RATP. Vous voyez que ça progresse également. Pour les élus locaux, c'est la même chose. Hausse de 14% en 2020, c'est absolument du jamais vu. Et pour les policiers et les gendarmes, on compte en moyenne 110 agressions par jour. On ne respecte plus l'uniforme dans notre pays. Comment vous l'expliquez ?
Oui.
L'uniforme, quel qu'il soit, le représentant d'une certaine autorité de l'État,
bien,
en fait.
J'entends bien. Mais c'est un débat complexe, si vous voulez, parce qu'il y a le sentiment, c'est un débat où il y a à la fois des sentiments.
Mais là,
sentiments,
ce sont des chiffres, c'est pas un sentiment.
Oui, mais d'accord, il y a des chiffres, mais il faut les contextualiser, si vous voulez. Si on se place sur le long terme, il n'y a pas d'augmentation de la violence. Il y a un psychologue américain qui a écrit un livre formidable.
Y compris, pardon, contre les tenants d'une forme d'incarnation de l'État.
Oui, si vous voulez, si on se place dans le long terme, j'entends,
oui.
dans le long terme, Steven Pinker, qui a écrit un livre extraordinaire sur l'histoire de la violence, il montre qu'il y a un déclin séculaire de la violence. Bon. Alors, c'est un déclin séculaire sur le long terme, il peut y avoir une remontée sur le court terme.
Oui.
Mais en fait, lorsqu'on regarde les chiffres, si vous voulez, c'est en fait assez ambivalent. Par exemple, les homicides et les vols, c'est plutôt la stabilité ou le déclin. Par contre, les violences entre les personnes, effectivement, il y a une augmentation assez nette, disons, ces dix dernières années.
Mais quand j'étais enfant, ouais. c'était il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas des parents qui venaient foutre des torgnoles aux enseignants parce que le gamin avait pris une mauvaise note.
Oui.
Ça, c'est un phénomène assez nouveau quand même.
Oui, absolument. Ce qui est certain, en tous les cas, c'est qu'il y a une demande croissante d'autorité.
Oui.
Si vous voulez, on pose la question dans un certain nombre d'enquêtes. Est-ce que ce serait une bonne chose qu'il y ait plus d'autorité dans la société ? Dans la dernière enquête en 2017, il y a 79% des Français qui disent oui.
Oui, il y a d'ailleurs une enquête encore plus récente, pardon, qui dit que 82% des Français affirment que la France a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre.
Oui.
Ça, c'est un élément assez étonnant. Et 88% des Français affirment que l'autorité est une valeur trop souvent critiquée.
Voilà, alors il y a des sentiments ambivalents, si vous voulez, parce que les Français ont à la fois cette demande d'autorité. Je suis d'accord avec Laurent Geoffrin, il y a en même temps cette demande de liberté. Et c'est précisément la tension entre cette demande de liberté et les excès parfois auxquels elle donne lieu dans la vie sociale et dans la vie publique qui créent cette demande d'autorité. Et en même temps, je pense, et ça c'est un peu le phénomène gilet jaune si vous voulez, c'est qu'il y a une contestation croissante. Vous savez, il y a un grand sociologue allemand, Max Weber, qui disait que l'État a le monopole de la violence, de l'usage de la violence légitime.
Oui, oui.
Voilà. Et ce monopole de l'usage de la violence légitime, il est effectivement peut-être de plus en plus contesté par une minorité, mais une minorité significative de Français, qui par exemple donnait raison à certaines exactions des gilets jaunes, à certaines violences contre les policiers. Donc voilà, c'est assez complexe, parce qu'il y a à la fois cette demande d'autorité, et en même temps cette contestation peut-être croissante de l'autorité légitime de la puissance
publique. Alors, dans quelques secondes, on continuera évidemment d'en parler, puis on ira chercher un peu les ressorts de cette défiance de l'autorité. On donnera la parole évidemment à Barbara Lefebvre, qui est avec nous par téléphone. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Ce soir, on parle de l'autorité de l'État. Les Français ont-ils un problème avec cette autorité? Les enseignants, les pompiers, les policiers, les chauffeurs de bus, les élus locaux et j'en passe sont de plus en plus pris pour cible, c'est ce que révèlent les chiffres et les derniers indicateurs. Alors pourquoi expliquer cette défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État? On en parle ce soir avec nos invités et avec Barbara Lefebvre notamment, qui est essayiste et enseignante, auteure de Génération J'ai le droit, la faillite de notre éducation. Votre point de vue d'abord sur ce qui a été dit ici en studio, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Geoffrin? Cette violence d'une certaine manière contre l'autorité de l'État, elle est portée par une forme d'individualisme de notre époque, c'est-à-dire qu'on ne respecte plus le cadre commun et ceux qui l'incarnent, on vit d'abord selon ses propres règles.
Mais bien sûr, Hannah Arendt ne disait pas autre chose des années 50 quand elle expliquait que la crise de l'autorité avait accompagné le développement du monde moderne. Et un des éléments du monde moderne et aussi de notre postmodernité maintenant, c'est la sacralisation de l'individu. Bien sûr, les droits de l'individu sont sacrés, mais on est arrivé aujourd'hui à un individualisme, un hyper-individualisme qui a largement dévoyé cette vision libérale de l'émancipation individuelle. Et justement, précisément, j'y reviendrai, ce n'est pas un hasard si le lieu de l'apprentissage de cette émancipation qu'est l'école est aujourd'hui contesté dans son autorité. Maintenant, pour ce qui est de l'autorité de l'État, dans une démocratie comme la nôtre, qui plus est notre démocratie républicaine, elle vous est conférée par l'élection. Or, ce que l'on attend d'une autorité, et pour qu'elle se justifie et qu'elle soit légitime, on attend d'elle qu'elle agisse sur le réel. On n'attend pas d'elle qu'elle commente le réel, qu'elle observe le réel. Or, nous avons depuis une quarantaine d'années des dirigeants qui veulent terroriser les terroristes, qui veulent faire accéder le vivre ensemble, bref, qui se payent de mots, mais les Français constatent que les actes ne sont pas là. Et je pense qu'effectivement, la défiance qui est exprimée aujourd'hui envers l'État et qui sert d'ailleurs à un certain nombre de boutiquiers idéologiques pour essayer de détruire la démocratie républicaine, c'est précisément qu'on observe, les Français observent une forme d'impuissance de l'autorité de l'État.
Oui.
Les Français sont demandeurs de cette autorité et les Français, par contre, refusent l'autoritarisme. Ça, c'est une caractéristique
très française. Quand vous dites 40 ans, Barbara Lefebvre, vous pensez à la fin de queue de comète, j'allais dire, de 68, il est interdit d'interdire. On en a fait une doxa un peu universelle en France. Est-ce que ça, c'est aussi à la source de cette défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État?
Oui, peut-être. Je pense qu'en 68, on fustigeait d'abord l'autoritarisme, mais comme c'était une époque où on employait facilement un mot pour un autre, en réalité, on fustigeait l'autoritarisme, mais on parlait d'autorité.
Oui.
Voilà, c'est un petit peu comme CRS-SS. Bon, aujourd'hui, tout le monde déteste la police et suicidez-vous. On voit que de ce point de vue, parfois, les foules sont d'une bêtise crasse dans l'usage qu'ils font des mots.
Bien.
Mais je ne sais même pas si c'est ça, mais on observe aussi ce délitement institutionnel. Le quinquennat n'a pas aidé non plus à accentuer la confiance dans l'État. Et de la même façon que quand les Français sont appelés à s'exprimer sur des sujets, on peut penser au référendum de 2005 qui a quand même été une rupture aussi, lorsqu'ils s'expriment et que cette puissance légitime du vote dit quelque chose au pouvoir public, eh bien les pouvoirs publics s'assoient sur la vox populi. Et donc,
alors,
si vous voulez, il y a plein d'éléments qui, mis les uns à côté des autres, c'est comme un collier avec plusieurs perles. Vous avez bien sûr l'hyper-individualisme, vous avez la postmodernité, vous avez la révolution numérique qui horizontalise toutes les opinions, c'est-à-dire que la parole d'un médecin, la parole d'un médecin va valoir celle du kidam du coin
oui,
de la rue qui a lui
vaut.
Aussi son opinion. Donc
Attendez.
Tout se vaut. Mais je terminerai sur un point. Et encore pour reprendre Hannah Arendt, non pas que ce soit mon mentor, mais elle disait clairement une chose, dans les années 50 déjà, elle disait que le symptôme le plus significatif de cette crise de l'autorité, et je la cite, qui indiquait sa profondeur et son sérieux, était qu'elle avait gagné des sphères pré-politiques,
oui.
comme l'éducation et l'instruction des enfants. Et je crois qu'effectivement, un des grands lieux d'évaluation de l'autorité, et donc pas seulement de l'autorité d'État, mais de l'autorité, ça a été la dévaluation des Bien. Savoirs et la dévaluation notamment aussi du maître
Alors,
qu'on a décidé de faire descendre à la fois de l'estrade, ce qui n'était peut-être pas une mauvaise idée, mais en même temps pour au même niveau que les élèves.
On reviendra à l'école tout à l'heure en bonne enseignante. Vous nous avez fait un cours magistral, mais c'est bien parce que c'est passionnant. On va donner la parole à Laurent oui. Geoffrin. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Barbara Lefebvre dit « première responsabilité, le politique ». L'individualisme, mais vous êtes d'accord, le politique, l'école. Je voudrais simplement vous interroger sur des questions précises. Comme disait Chirac, un chef doit cheffer. Alors on a beaucoup reproché par exemple à François Hollande son manque d'autorité, cette volonté d'être un président normal, qui se laissait moquer, y compris d'ailleurs dans son propre camp. Est-ce que ça aussi, ça participe à travers François Hollande, je parle évidemment de la classe politique, mais est-ce que ça participe aussi à une forme de manque de repères?
Oui, mais enfin, avant c'était Sarkozy, il était moins impopulaire que Hollande, mais enfin il était quand même très impopulaire, d'ailleurs il a perdu l'élection, et lui au contraire faisait profession d'autorité, donc ça ne marche pas à chaque fois. J'allais donner il faut distinguer quand même les types de contestation et d'agression. Par exemple, les agressions contre les policiers dans le cours ordinaire du temps, je ne parle pas dans les manifestations, mais dans les quartiers notamment. Les agressions contre les pompiers ou contre certains oui. bâtiments publics sont largement liées, très souvent, à l'existence de réseaux de trafic de drogue. C'est tout bête. C'est-à-dire que les trafiquants de drogue, comme il y en a beaucoup en France, dans ces quartiers, ont besoin de tranquillité pour faire du business. Et donc que la police ne vienne pas, que les pompiers ne viennent pas, que même les travailleurs sociaux, tous les gens qui représentent l'État, doivent rester à l'écart. Et donc, ils organisent volontairement des guet-apens, des agressions, et de manière à ce que...
Mais contre les enseignants, contre les élus locaux,
c'est une autre
on a
chose.
Vu ces images, c'est des bons pères de famille qui,
oui, mais c'est pas le même phénomène,
qui castagnent
oui.
des élus locaux, ça c'est
pas,
quand même...
C'est pas le même phénomène.
Mais ça participe d'un contexte.
Le trafic de drogue, c'est pas lié à la contestation de l'autorité.
Bien,
de drogue,
comment vous l'expliquez alors, cette défiance vis-à-vis de...
Alors, c'est vis-à-vis des élus, par exemple.
Oui.
On prend le cas des élus. Là, c'est vrai que l'impuissance de l'État sur un certain nombre de points, pas seulement sur les questions dites régaliennes, mais quand vous avez une succession de gouvernements qui placent en priorité la lutte contre le chômage et qui n'y arrivent jamais, ça crée évidemment un manque d'autorité. Parce que les gens se disent, mais alors ces gens-là sont impuissants, ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes sociaux. Quand vous avez des quartiers entiers où il y a 50% de chômeurs, où il y a une misère qui règne et que l'État n'arrive pas, pas seulement à maintenir l'ordre, mais à soigner les plaies sociales de ces quartiers, ça crée une défiance. Et ça, c'est un phénomène très important. Ça explique beaucoup de choses.
Oui. Alors, dans quelques secondes, on parlera de l'école, qui est un levier important pour rétablir, disent certains, une certaine autorité de l'État. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours ensemble ce soir dans le débat du Club des Idées, avec Laurent Geoffrin notamment, avec Olivier Galland, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS, et on parle de l'autorité de l'État. La France a-t-elle un problème avec l'autorité de l'État, avec ses enseignants, ses pompiers, ses policiers, ses élus locaux, qui sont parfois pris pour cible, parfois même violemment? Alors, on va poursuivre la discussion. Il y a quand même quelqu'un qui s'est exprimé sur cette crise de l'autorité. C'est le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. Il a d'ailleurs fait un livre, « Qu'est-ce qu'un chef ?» chez Fayard.
Je crois qu'il y a une crise de l'autorité. Pas simplement en France, ce sont toutes nos démocraties occidentales. Et je crois que la solution, c'est de remettre l'homme et la femme au centre des préoccupations des dirigeants. La clé, c'est la confiance avec une obéissance active, une obéissance d'amitié, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. L'autorité, c'est ni la dureté froide, ni la mollesse tiède, c'est celui qui fait grandir, qui fait s'élever.
Voilà, je voudrais qu'on fasse un petit focus quand même sur l'école, qui est un exemple, à mon avis, symptomatique, c'est-à-dire l'autorité à l'école. On entend beaucoup d'enseignants dire « nous sommes là pour apprendre, pas pour éduquer ». Ils sont face, en fait, désormais, disent-ils, hein, pour certains, des jeunes qui n'ont plus la notion de respect de l'autorité élémentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et comment vous l'expliquez, Olivier Galland? Vous êtes donc sociologue.
Il y a des tensions à l'école, bien sûr. C'est un lieu de tension. C'est aussi un lieu de protection pour les jeunes. Ils le reconnaissent. L'école, pour eux, surtout les jeunes qui ont des difficultés dans leur milieu familial, dans leur quartier, l'école est un lieu de protection. Alors, il y a des tensions à l'école. Effectivement, l'école française est un lieu où on a du mal à maîtriser les conflits, les tensions avec les élèves. Mais c'est aussi, il y a une étude qui vient d'être publiée par l'ADEP de l'Éducation nationale qui montre aussi que les professeurs français ont beaucoup de mal, et c'est eux-mêmes qui le reconnaissent, à faire réussir les élèves qui ont des difficultés. Oui. Donc il y a un problème aussi de pédagogie, si vous voulez. Il y a un peu une coupure à l'école entre la culture des jeunes et la culture
mais
scolaire.
Mais sur le respect du prof, de l'enseignant, de l'instituteur, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la hausse quand même phénoménale des agressions des personnels enseignants, 22% de progression en quelques temps, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. On ne respecte plus l'instituteur, le professeur, les parents peuvent s'en prendre à l'enseignant de leurs enfants parce qu'il y a un mot dans le carnet, par exemple.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne crois pas qu'il faille généraliser. Je pense que, malgré tout, si vous voulez, ça ne se passe pas si mal que ça dans les établissements scolaires. Il ne faut pas généraliser.
Vous allez dire que je suis un fervent supporter de chevènement. Pas du tout, mais il se trouve qu'il s'est beaucoup exprimé sur le sujet de l'autorité de l'école et il dit ceci. Il faut revenir à une définition juste de l'école. Elle est faite pour transmettre le savoir, les valeurs, le sens de notre histoire, le patriotisme, le civisme. Si l'école perd de vue sa fonction essentielle, si l'on en fait un simple lieu de vie, dit-il, si l'on met l'élève au centre de l'école et si on se décharge sur lui du soin de construire ses savoirs, alors tous les repères sont faussés. Est-ce que c'est également votre avis, Barbara Lefebvre?
Oui, enfin, M. Chevènement a été ministre de l'Éducation nationale, et donc, à sa façon... Même
il a sa part de responsabilité, vous allez dire.
Il a tenté, de restaurer un certain nombre d'éléments, mais qui étaient, pour moi, des éléments importants, mais qui sont restés, hélas, de l'affichage, parce que, encore une fois, le drapeau tricolore, la Marseillaise, oui, mais si derrière tout ça, il n'y a pas une vraie réévaluation des savoirs et de la place du maître dans la classe,
alors, comment
ça ne sert à rien.
Or, cette place du maître
non, mais ce qu'a voulu dire M. Chevènement, et ce qu'on dit aussi d'autres ministres de l'Éducation nationale, mais derrière, vous savez, le ministère de l'Éducation nationale, il y a une administration et il y a une inspection générale de l'Éducation nationale. Et tout cela est travaillé par une idéologie qui, parfois, n'a rien à voir avec les idées du ministre. La question, effectivement, c'est de savoir quelle est la place des savoirs à l'école. Et le maître est celui qui possède les savoirs. C'est celui aussi qui possède l'expertise pour les transmettre. C'est-à-dire qu'il exerce un art qui s'appelle la pédagogie. Parce que la pédagogie est un art, ce n'est pas une technique qui s'apprend dans les IUFM et qui s'apprend avec des professeurs d'université en sciences de l'éducation qui n'ont pas mis les pieds dans une salle de classe depuis une vingtaine d'années. Or, ce sont ces gens-là à qui on a demandé depuis plus de 20 ans de former les enseignants.
Donc vous dites, pour restaurer une forme d'autorité, il faut revoir la formation des profs et des enseignants, c'est ça?
Déjà, oui, pour redonner au maître sa place, il faudrait déjà lui faire confiance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, de la part même de l'institution, au cœur même de l'institution, un corps de l'inspection, des universitaires qui méprisent les petits profs. On appelle ça les petits profs, c'est-à-dire qui méprisent le certifié. Bon, ils ont un petit peu de respect pour l'agrégé, mais enfin bon, l'agrégé de lycée, c'est quand même un prof qui n'a pas réussi à enseigner à l'université. Donc,
s'il vous plaît,
le maître qui était jadis respecté, moi, quand j'entends qu'on me dit les enseignants ne savent pas enseigner dans des classes hétérogènes, ils ont toujours su enseigner dans des classes hétérogènes. Et je pense que les classes dans lesquelles ma grand-mère a été scolarisée dans les années 30, elle était très hétérogène. Alors, idem pour ma mère qui était dans une classe où il y avait plus de 45 élèves. C'était très hétérogène. Seulement, à l'époque, il y avait des savoirs qui étaient assumé et incarné par l'enseignant, et il n'y avait pas derrière toute une idéologie et un travail technocratique qui visait à aspirer l'autorité du maître. Et précisément, quand vous avez des enseignants qui sont à la fois dans la maîtrise de leur savoir et dans la maîtrise de leur autorité, les élèves adorent cela.
Alors,
croyez-moi que les élèves n'aiment pas les profs copains.
Bien, je vous arrête parce qu'il nous reste peu de temps. Je voulais entendre Laurent Geoffrin sur ce rôle des professeurs et de l'école et peut-être vous poser cette question par effet de prolongement. Est-ce que c'est une spécificité française, cette sorte de crise de l'autorité? On remarque que dans les pays nordiques, par exemple, où la culture est plus protestante, le respect des règles est beaucoup plus fort. Est-ce qu'il y a chez nous une part d'héritage parce que notre culture est celle-ci, la culture aussi de la violence, la révolution, la contestation, la commune, mai 68 ?
Ah, historiquement, c'est évident. La France est un pays de révolution. Il y en a eu 3 ou 4, et souvent extrêmement violentes. Et c'est un pays de contestation naturelle de l'autorité, ça a toujours été le cas. Ça s'est développé ensuite à cause de ce phénomène de plus grande liberté qu'on a acquis dans les années 50, 60, 70. Et effectivement, à ce moment-là, toute autorité, mais le général de Villiers le dit lui-même, il dit que l'autorité se conquiert par la conviction, en convainquant les gens qu'on est compétent et qu'on sait faire, et qu'on les écoute, etc. Ce n'est pas du tout le caporalisme, pense un général.
Oui.
Et donc, il est assez en prise avec son temps, finalement.
Bien.
Mais il y a un autre phénomène pour l'école, je crois, c'est que moi, quand j'étais à l'école, il y avait une petite minorité qui allait au lycée. La majorité des élèves, qui étaient souvent d'origine populaire, arrêtaient l'école à 14 ans et ensuite allaient à l'usine. Et ils n'étaient pas dans les mêmes filières. Aujourd'hui, tout est mélangé. Et donc, vous avez à la fois des gens de ménage très éduqués et puis des gens de ménage beaucoup moins éduqués qui sont sans doute moins attentifs, encore qu'eux, vous allez voir, mais à ce que font leurs enfants. Et donc, la gestion d'une classe, la maîtrise d'une classe aussi hétérogène, est quand même plus difficile,
oui,
c'est quand même
beaucoup
plus dur qu'avant. Avant, il y avait des fils de bourgeois ou des fils de profs dans les lycées. Maintenant, il y a tout le monde. Donc, évidemment, c'est plus dur.
Bien, comment rétablir l'autorité de l'État ? On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Je suis navré, on est obligé de s'arrêter. C'est un débat absolument passionnant et on aura l'occasion, évidemment, de vous inviter à nouveau pour en parler. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bugier.
À suivre dans quelques secondes. Tiens, on va rester dans la thématique avec les archives d'Europe 1. On va vous raconter la célèbre gifle de François Bayrou qui avait aussi beaucoup marqué les esprits. C'est une forme d'autorité de l'État aussi, d'une certaine manière. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, le club des idées d'Europe Soir qui se poursuit à 19h52. Et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre. Ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Et ce soir, on prolonge avec vous le débat sur l'autorité. Vous vous rappelez de cette gifle donnée par François Bayrou, alors candidat à la présidentielle, à un enfant ? C'était en 2002.
Oui, c'était le 8 avril 2002. Voilà, une claque et cette phrase désormais célèbre, « Tu ne me fais pas les poches ». Alors, que s'est-il passé ? Ce jour-là, François Bayrou est en campagne présidentielle, en visite dans un quartier sensible de Strasbourg. Il est accueilli par une pluie de cailloux et d'insultes. Le candidat à l'Élysée demande des explications au groupe de jeunes qui l'entourent. Tout à coup, il surprend un garçon, la main dans sa poche. François Bayrou le gifle sous l'œil des caméras. La taloche strasbourgeoise, comme il l'appelle, passe à la postérité.
Oui Marion, c'est le soir même que ce geste marque la campagne présidentielle.
Oui, François Bayrou profite de cet incident pour lancer une promesse de campagne. Il résoudra en 18 mois le problème de l'insécurité. Son portable se met à vrombir, les appels se succèdent. Deux jours plus tard, il est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1.
Franchement, mettre sa main dans la poche et découvrir qu'il y a une main d'un enfant dans votre poche, comme si tout ça était normal. Eh bien, je dis qu'il faut que désormais une fermeté s'exprime.
Donc, vous confirmez l'argument des principaux candidats à cette élection présidentielle, sus à l'insécurité.
Je confirme l'argument, mais je dis pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
Mais en fait, malgré ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, cette gifle ne rend pas François Bayrou impopulaire, bien au contraire.
Alors, pas du tout. Et rapidement, 3 enquêtes d'opinion font de François Bayrou l'homme politique le plus populaire à droite. Incompréhensible pour Nadia Ghanem, la mère de Yacine, ce garçon prit la main dans la poche. Sur Europe 1, elle dénonce une manœuvre politique.
J'ai l'impression qu'il se sert de Yacine. Je vois vraiment pas quel exploit il a fait. Il a giflé un gamin et c'est tout. Hein. Si c'est une gifle qui a réussi à faire monter la cote, eh ben c'est grave. Alors là, il a donné une gifle. Alors s'il aurait donné une raclée, qu'est-ce qu'il y a ? Il serait devenu président ?
Je m'en souvenais pas du tout de la réaction de la mère du jeune enfant. Alors près de 20 ans plus tard, Marion, en 2019, c'est bien le MoDem de François Bayrou qui porte le projet de loi sur l'interdiction de la gifle, la fessée et les humiliations faites aux enfants. C'est quand même le paradoxe de l'histoire.
Oui, justement, certains députés des autres partis soulignent cette ironie. Alors la défense de Marc Fesneau, ministre MoDem chargé des relations avec le Parlement, sur Europe 1.
Mais c'était de l'ordre du réflexe. La société a évolué. Mais je pense que c'est une loi qui, d'abord, au-delà d'être un élément coercitif, est une loi qui vise à la pédagogie. Et à chaque fois qu'on porte la main sur un enfant, de se poser la question de la justification et des dégâts que ça peut produire chez un enfant.
Et on l'entend, Marion, le MoDem essaie donc de se détacher aujourd'hui de cette gifle, de la laisser dans le passé. Mais est-ce qu'on a des nouvelles de l'autre personne concernée, de cet enfant, Yacine ?
Alors lui, l'histoire l'a poursuivi en fait. Yacine est surnommé Bérou dans son quartier. Il refait surface en 2012. Le journal Dernière Nouvelle d'Alsace titre alors 4 mois ferme pour le petit Bérou, accusé d'outrage et de violence envers des policiers. Une condamnation citée plus tard par le MoDem pour justifier son projet de loi. Une gifle où toute violence dans l'éducation est inutile.
Merci pour ces archives, Marion Gauthier. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, on retrouve l'extraordinaire, la superbe, la magnifique Émilie Mazoyer. Salut Émilie.
Waouh, c'est ma fête,
bah
j'adore.
Ouais, écoute,
salut Julien.
Salut, quel est le programme chez toi ce soir?
Alors ce soir, après évidemment un hommage à Juliette Gréco, hein, dont on vient d'apprendre le décès, on accueillera un tout nouveau talent qui s'appelle Charles Baptiste. Et puis là, on n'est pas au rayon jeune talent, dans la deuxième partie de l'émission, un petit live de Bruce Springsteen qui fête aujourd'hui ses 71 ans.
Oh, Juliette Gréco, tu me l'apprends.
Ah, désolé.
Tristesse.
Oui, on vient à la seconde, là.
D'accord.
Ouais,
okay,
de l'apprendre.
Bon, bah, hommage.
On l'écoutera.
On se branche sur Europe 1. Merci, Émilie.
Ouais.
À tout de
Merci,
suite.
Merci, Julien. Salut.
19h56, les infos, le rappel des titres dans un instant. Et puis après, la musique. Donc, avec Émilie Mazoyer. Nous, on se donne rendez-vous, même lieu, même heure, demain pour le 18-20. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer sur Europe 1. Ciao.